Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Jamais de démontrer la réalité du péché. Dans chacune de leurs déclarations les concernant, le péché est considéré comme un fait indéniable qui ne permet ni doute, ni discussion, et encore moins d'être dissimulé en tant qu'axiome absolu. Il est vrai que certains esprits, par le canal d'une fausse philosophie et d'une science purement matérielle, refusent d'admettre l'existence du péché. Cependant, leurs tentatives frénétiques pour essayer, grâce à des théories purement métaphysiques, de rejeter son existence constituent en elles-mêmes autant de preuves concrètes que le péché, loin d'être le fruit de l'imagination, est bien une solide réalité. D'autres, à l'intelligence moins aiguisée, en arrivent à faire naufrage en ce qui concerne la puissance de l'iniquité. Ils s'endurcissent, se fossilisent à un point tel à propos de leur sensation de culpabilité qu'aucune conviction de péché n'est plus possible. Du moins, leur esprit est tellement détérioré ou altéré dans ses émotions que seul quelque chose de très intense au niveau de l'âme, provoqué par exemple par une grande affliction, peut encore amener une opération de l'esprit divin à se produire en eux. Cela peut malgré tout faire se fendre la gangue d'engourdissement moral et de torpeur religieuse qui les enserre. Une troisième catégorie d'êtres se refuse simplement de penser au péché. Et ça les amène tout naturellement, après une plus ou moins longue période, à conclure que le péché étant ce qu'il est, c'est-à-dire une réalité ou pas, ne les concerne pas puisqu'ils n'entretiennent aucune relation avec lui. Dans ce cas, comme dans les autres, l'homme se trompe, s'escroque lui-même. Il appartient à la vérité de dire qu'il est extrêmement douteux. Une personne dont les perceptions morales n'ont pas été entièrement détériorées, dont les intuitions mentales n'ont pas encore été complètement altérées par une indulgence personnelle vis-à-vis du mal, puisse arriver à se persuader, du moins d'une manière permanente, que le péché est un mythe, une illusion, une création de l'imagination et non pas une réalité indéfectible. La plupart des êtres humains réalisent parfaitement que le péché est pour eux une question de conscience, qu'on ne peut nier. Pour d'autres, il est considéré comme un fait relevant d'une observation personnelle qu'ils ne peuvent ni dominer, ni même surveiller. Le péché que l'on voit aisément dans la rue, on peut le découvrir également en soi-même, si l'on veut être assez lucide que pour regarder au fond de son propre cœur. En abordant le sujet de la nature du péché, il faut avant tout remarquer que les idées dites « avancées » ne trouve aucun soutien dans les Écritures. Celles-ci ne considèrent jamais le péché comme étant une des bonnes choses parmi l'ensemble de la création, comme l'ombre projetée par le manque de maturité de l'homme, comme une nécessité déterminée par l'hérédité et l'environnement, comme une souillure adhérente à l'image humaine, comme une étape dans le développement ascendant d'un être limité, comme une maladie psychique, une infirmité mentale, une faiblesse de constitution et le comble de tout, une invention de l'imagination imparfaitement éclairée ou théologiquement pervertie. Tout ce vocabulaire est emprunté à de doctes ouvrages. N'est-ce pas écœurant? La Bible n'a jamais cessé de considérer le péché comme un acte commis librement par un être intelligent, moral et entièrement responsable de son attitude vis-à-vis de la volonté de son Créateur, unique souverain de l'univers. La volonté de Dieu est en réalité écrite dans le cœur de chaque individu. En Romains 1:19, l'apôtre Paul, en parlant de ceux qui violent la vérité, dit « Car ce qu'on connaît de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Cette volonté divine fait partie de la révélation faite à l'humanité, tout d'abord aux Hébreux dans l'Ancien Testament, Ensuite, à l'Église du Christ et par elle au monde entier dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'Évangile et les Épîtres des Apôtres. Dans le livre de Dieu, le péché est habituellement décrit en des termes qui indiquent avec une clarté limpide sa relation directe avec la loi ou la volonté divine. Aucun doute, aucune imprécision ne subsiste quant à son caractère essentiel. Dans l'Ancien Testament, comme en Exode chapitre 34 verset 7, en Psaume chapitre 32, 1 et 2 par exemple, trois mots sont utilisés afin de définir parfaitement le mot péché. Transgression, péché et iniquité. Premièrement, transgression. S'éloigner de Dieu et par conséquent se vider de ses ordres. L'apôtre Jean reprend cette définition à son compte lorsqu'il dit en 1 Jean 5, 17 « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » Paul le fait aussi d'ailleurs et à plusieurs reprises. Dans Romains, chapitre 4, verset 15, où il précise « Là où il n'y avait point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. » Et deuxièmement, le mot « péché ». Manquer son coup, ne pas remplir ses obligations, faillir à son devoir strict. C'est la raison pour laquelle ce terme s'applique au péché d'omission. Et à nouveau, Jean vient confirmer cette signification en 1 Jean 5, 17, lorsqu'il affirme « Toute iniquité est un péché. » Paul, également dans Romains 3, 23, dit ceci, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Autrement dit, ils manquent leur but en n'obéissant pas. Jésus lui-même accuse les scribes et les pharisiens par ces mots. « Vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. » Et ensuite, le mot « iniquité ». Se détourner du droit chemin, décrire une courbe comme une flèche, c'est-à-dire avec une perversité, une dépravation, avec une inconstance de conduite. Cette conception trouve son écho dans le langage utilisé dans le psaume 78 au verset 57, qui parlant des fils d'Éphraïm déclare « Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. » Le prophète Ésaïe avoua que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'un de ces co-religionnaires, Osée, fustigea également les Hébreux dans une diatribe acrimonieuse. Ils sont comme un arc trompeur, leurs chefs tomberont par l'épée. Les mots qu'utilise le Nouveau Testament pour désigner le péché, bien qu'étant peut-être moins métaphoriques, sont pratiquement les mêmes quant à leur signification. Amartia, c'est-à-dire faillite, tomber, faire un faux pas, grosse faute. Et anomia, qui veut dire sans loi. Ces deux derniers mots tombent comme un couperet, tant qu'ils expriment les choses. D'après la Bible, le péché n'est pas un état, une condition de l'âme, qui se révèle seulement parmi, tout d'abord, une certaine catégorie d'individus, tels que pécheurs notoires, tels que prodigues, débauchés, criminels, et vicieux de toute espèce. Deuxièmement, dans des circonstances exceptionnelles, telles que par exemple au début de l'existence de l'homme sur la terre. Troisièmement, parmi les races en voie de développement. Quatrièmement, dans des pays où les arts et les sciences sont encore inconnus. Et cinquièmement, parmi les communautés civilisées dont l'environnement est préjudiciable à une moralité équilibrée. Au loin de là, le péché est étranger à la qualité ou à la condition de l'âme existant chez chaque être humain dès la naissance, et non pas limité à des cas ou à des temps isolés. Le péché se manifeste n'importe où, n'importe quand, et à toute étape de la carrière humaine. Il ne se manifeste cependant pas toujours sous la même forme de pensée, de sensibilité, de mots ou d'action chez n'importe quel individu, ou même chez le même être. Le péché a depuis toujours affecté d'une manière extensive l'entière race humaine, à chaque étape de son histoire et à commencer par le début, dans tous les pays qui existent sous le soleil. Et chaque race qui divise l'humanité y est sujette en dehors des situations diverses dans lesquelles l'homme s'est trouvé placé. De même, le péché affecte d'une manière intensive toute personne en dehors de toute considération de parti et de faculté de sa nature propre, que ce soit de la circonférence au centre ou du centre à la circonférence de son être. Les Écritures ne laisse planer aucun doute sur le caractère universel de la corruption morale. Elle stipule même que déjà à l'époque prédiluvienne, que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et bien plus tard, à l'époque de David, Dieu remarque que tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Lorsque le prophète Isaïe dirigeait le peuple au nom de l'Éternel, il s'écrit en prophétisant la venue du Messie, « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » À l'avènement de l'ère chrétienne, la situation n'avait pas changé, puisque Paul dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Salomon le sage avait en son temps prononcé une sorte de verdict concernant l'humanité en général. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Et cela est toujours vrai, même pour le meilleur. Ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, et qui sont nés de nouveau en conformité avec la résurrection de Jésus. L'apôtre Jean en personne ne dit-il pas, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Nous apprenons, toujours par les Écritures, qu'une seule personne était exempte du péché. Lorsqu'elle était sur terre, bien sûr, et c'est Jésus, Jésus de Nazareth. L'apôtre Pierre dit de lui, « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis le péché. » L'apôtre Jean s'adresse aujourd'hui à vous, oui, à vous. Écoutez-le. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Alors dites-moi, qu'attendez-vous pour venir à lui et être lavé de ces péchés qui souillent votre âme? Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma.